Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te remercier encore, Seigneur, pour qui tu es. Merci, Seigneur, parce que tu as les paroles de la vie, Seigneur. À qui irions-nous, Seigneur? Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment, nous avons faim de toi, Seigneur. Nous avons soif, Seigneur, d'entendre encore plus de toi, Seigneur. Tu nous as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Seigneur. Seigneur, nous voulons recevoir tes paroles ce matin, Seigneur. Nos âmes ont faim, ont soif de t'entendre, Seigneur. Tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Nous avons faim de ta vie, Seigneur. Seigneur, ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre notre intelligence, Seigneur. Seigneur, je te prie, donne-moi la capacité de parler, Seigneur, selon toi, Seigneur. Seigneur, sans toi, je n'ai pas la force, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Éternel, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Alléluia. Il est bon, il est agréable d'adorer, de louer le Seigneur. Amen.
Amen.
On a pu le sentir ce matin, quand on est dans la présence de Dieu, et qu'on est vraiment connecté à lui, on a une liberté. Amen. Il y a une liberté qu'il y a dans la présence du Seigneur. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. J'ai entendu le diacre Ruffin prier tout à l'heure et dire, Seigneur, nous voulons nous offrir nous-mêmes pour t'adorer. Amen.
Amen.
Nous voulons t'adorer, Seigneur, et nous offrir nous-mêmes pour t'adorer. Le sujet que le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de partager aujourd'hui est vraiment en lien avec cette adoration-là. Nous allons continuer à recevoir l'enseignement de notre Seigneur, toujours sur le thème qui lui était favori, le royaume. Amen.
Amen.
Le royaume, c'était le sujet principal du Seigneur Jésus, le royaume de Dieu. Et le Seigneur parlait en parabole, et vous avez dû remarquer que je m'attache à étudier les paraboles. Amen. Parce que dans les paraboles, il y a tout l'enseignement, toute la révélation que le Seigneur voulait nous donner dans le royaume. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la parabole de la vigne. La parabole de la vigne. Et toujours sur le thème du royaume, le fait d'être dans l'adoration, d'être adorateur, je veux insister aujourd'hui sur un sujet en particulier, sur le fait d'être productif pour le royaume de Dieu. Amen. Être productif pour le royaume de Dieu. Le secret d'une vie fructueuse en Christ. Amen. Une vie fructueuse. Je vais introduire en lisant un passage, un texte. C'est dans Jean 15, 5. Dans Jean chapitre 15, au verset 5, le Seigneur dit, « Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. » Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. Je vais reprendre en partant du verset 1, Jean chapitre 15, du verset 1 au verset 8. Là est toute la parabole de la vigne. Jésus qui parle et Jésus dit, « Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous mes sarments qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille pour les émonder afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Vous aussi, vous avez été émondés et purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en communion avec moi. Je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Et il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance, et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré, et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Amen. Alléluia. D'accord, c'est la version parole vivante. Merci, diacre. Version parole vivante. Vous l'avez? Non. D'accord. Il est important de rappeler pourquoi Jésus emploie la parabole pour enseigner à ses disciples lorsqu'il parle de la vigne et du vigneron et des sarments. Jésus parle en parabole à ses disciples lorsqu'il enseigne sur les réalités spirituelles du royaume et sur la façon dont le royaume de Dieu se manifeste dans le monde dans lequel nous vivons. Nous avons vu lors de nos précédentes études sur les autres paraboles qu'on a pu étudier, la parabole du festin des noces, la parabole des talents, que toute parabole est constituée d'un corps et d'une âme. Donc on vient de lire le corps de cette parabole que Jésus a dite à ses disciples, et l'âme représente le sens moral, le sens mystique, le sens caché sous les paroles du récit. Mais que veut nous dire réellement le Seigneur au travers de ses paroles lorsqu'il nous dit que lui est la vraie vigne et que son père est le vigneron? Que veut-il vraiment nous enseigner lorsqu'il dit à ses disciples que lui est le cep de la vigne et que ses disciples sont les sarments? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Dans un premier lieu, le Seigneur souhaite que nous comprenions la nécessité d'être productifs pour le royaume des cieux. Être productif. Quand on lit dans Jean 15, versets 5 à 6, il dit « Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. » Pour être du royaume de Dieu et y demeurer, il apparaît que nous devons travailler. Nous devons faire un effort pour être productifs et porter du fruit de l'esprit. Amen. Ce n'est pas n'importe quel fruit, c'est le fruit de l'esprit. Amen. Ce n'est pas n'importe quel travail, ce n'est pas un travail humain, ce ne sont pas des capacités naturelles, c'est un fruit que l'esprit porte. En effet, Jésus-Christ nous a appelés à porter du fruit de l'Esprit et nous a appelés à être des personnes qui propagent la bonne nouvelle du royaume et qui sont productifs en faisant des disciples. Dans la parabole de la vigne, Jésus dit ceci, nous dit de faire très attention. Il dit ceci, attention. Je vais passer à un autre texte, c'est dans Matthieu chapitre 7, versets 15 à 23. Jésus nous dit de faire attention aux faux fruits. Attention, méfiez-vous de ceux qui prétendent faussement parler au nom de Dieu. Lorsqu'ils vous abordent, ils se font doux comme des agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces en quête de proie. Comment les reconnaître au résultat de leurs actes? Est-ce que vous allez cueillir du raisin au buisson d'épines ou récolter des figues sur des ronces? Ainsi, tout arbre sain porte de bons fruits, tandis qu'un arbre malade produit de mauvais fruits. Il est impossible qu'un arbre sain porte de mauvais fruits ou qu'un arbre malade produise de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est d'après leurs fruits que vous pourrez juger les serviteurs de Dieu. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux seront ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, Nous avons annoncé le message de Dieu en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, n'est-ce pas? Et cependant, il me faudra leur déclarer formellement, je ne vous ai jamais connu, vos actes sont mauvais, ils sont contraires à la loi de Dieu. Allez-vous-en. Un avertissement à faire attention aux fruits. Amen. Le fruit ne suffit pas, en fait. Ce que le Seigneur nous demande, nous invite à faire, c'est de porter très attention à la nature du fruit qu'on porte. Amen. Il s'agit de discernement. Dieu nous demande d'avoir du discernement. Et pourquoi il nous dit de faire attention? Puisqu'il nous a comparé à la vigne, ça veut dire que notre nature, il nous a comparé à la vigne et au sarment de la vigne précisément. La nature du sarment de la vigne, c'est de porter du fruit. Amen. Qu'on le veuille ou non, notre nature est de porter du fruit. Amen. Mais puisque Dieu est le vigneron, Dieu est très exigeant sur la nature du fruit qu'il attend de nous. Amen. Le vigneron, c'est le maître. C'est celui à qui appartient la vigne. Amen. Je pense que parmi nous, ici dans l'Assemblée, il y a des personnes qui ont fait les vendanges, qui ont fait les palissages, qui ont déjà eu à être en lien avec le travail de la vigne. C'est le vigneron qui décide ce qu'on coupe. Amen. Ce qu'on coupe et qu'on arrache. C'est lui qui décide où on doit émonder pour que le raisin produise plus de fruits. Amen. Et c'est lui qui sait valider, examiner si la moisson est bonne. Amen. Si le cru, la cuvée sera bonne en fonction des raisins. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, notre devoir, c'est de faire preuve de discernement et d'être vigilant sur la nature des fruits qu'on porte. Amen. Sur la nature des fruits qu'on porte. Et Dieu nous donne un exemple très clair. Et quand on lit dans toute la Bible, la vigne revient souvent. Amen. Même dans l'Ancien Testament, la vigne revient souvent lorsque Dieu parle du peuple d'Israël. Et ce n'est pas un hasard. Quand on va dans Ézéchiel, chapitre 15, versets 1 à 8, le prophète Ézéchiel dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils de l'homme, le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois? Le sarment qui est parmi les arbres de la forêt, prend-on de ce bois pour fabriquer un ouvrage? En tire-t-on une cheville pour suspendre un objet quelconque? Voici, on le met au feu pour le consumer. Le feu en consume les deux bouts et le milieu brûle. Sera-t-il bon à quelque chose? Voici, lorsqu'il était entier, on n'en faisait aucun ouvrage. Combien moins lorsque le feu l'a consumé et qu'il est brûlé? En pourra-t-on faire quelque ouvrage? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt, ce bois que je livre au feu pour le consumer, ainsi je livrerai les habitants de Jérusalem, je retournerai ma face contre eux. Ils sont sortis du feu et le feu les consumera, et vous saurez que je suis l'Éternel quand je tournerai ma face contre eux. Je ferai du pays un désert parce qu'ils ont été infidèles, dit le Seigneur l'Éternel. Donc on voit que le vigneron, quelque part, Dieu, il représente le jugement aussi, quelque part. Amen. C'est lui qui juge. Dieu, il juge et Dieu, il éprouve. Amen. Et on voit, pour revenir au thème de la vigne, que le bois de la vigne n'a aucune valeur, en fait. Amen. Pour les hommes. En tout cas, moi, je ne connais pas un menuisier qui fait des grandes choses, des grands meubles de valeur avec de la vigne. Amen. On voit parfois les gens font des tire-bouchons, des petites choses comme ça, mais c'est sans valeur. Et Dieu dit qu'à ses yeux, le bois de vigne n'a aucune valeur. Amen. L'homme qui sans fruit, l'homme qui ne porte pas le fruit de Dieu, est comme le bois de vigne, en fait, sans valeur pour le royaume de Dieu. Amen. On remet les choses dans le contexte du royaume de Dieu. Amen. Je ne suis pas en train de dire que l'homme n'a aucune valeur. Dieu nous a créés à son image. Amen. Il a un plan parfait pour nous. Amen. Mais notre valeur se trouve dans l'image de Dieu et dans l'empreinte que Dieu a mis en nous. Amen. Et l'empreinte du royaume en nous nous fait porter un fruit. Amen. La présence de Christ, le lien, le fait d'être connecté à Christ nous fait porter un fruit. Amen. Le fruit de l'Esprit. Et c'est ce que la parabole de la vigne veut nous enseigner. Amen. On se rappelle quand Jésus allait au pied du figuier et qu'il a vu que des feuilles, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit le figuier. Parce qu'il venait, il voulait cueillir un fruit. Et lui, il est le maître, hein? Pour lui, ce fruit était censé avoir, cet arbre était censé avoir produit son fruit en sa saison. Il avait toutes les feuilles. D'accord? Il présentait tous les signes de la maturité qui laissaient présager du fruit. Et il n'y avait rien. Jugement. Et le feu symbolise le jugement. D'accord? La colère de Dieu, le jugement. Donc, je continue. Toujours dans la première partie, on a vu la nécessité. Je disais que dans un premier temps, la chose importante qu'il fallait qu'on retienne, c'est que il fallait qu'on comprenne la nécessité d'être productif dans le royaume de Dieu. Amen. Il n'est pas question d'être fier d'appartenir au royaume de Dieu, de se glorifier et de ne porter aucun fruit. Amen. Ça, c'est de la vanité. La deuxième chose que cette parabole veut nous faire comprendre, c'est que la croissance spirituelle va avec les fruits spirituels. Amen. Il n'y a pas de fruits sans croissance. Pour être un véritable serviteur de Dieu et de Christ, un disciple, il est nécessaire d'acquérir la croissance spirituelle. Il est nécessaire de grandir. Et la croissance spirituelle, la parole de Dieu nous enseigne que ce n'est pas un don. D'accord? Beaucoup de gens pensent que la croissance spirituelle est donnée à certains et pas à d'autres. La croissance spirituelle n'est pas un don, mais c'est une discipline. On parlait tout à l'heure d'effort, de travailler, produire un effort pour produire du fruit. Il s'agit d'une discipline et pour grandir spirituellement, il faut à tout prix exercer un effort spirituel. On verra par la suite quelle est la nature de cet effort. Mais dans sa deuxième lettre adressée aux chrétiens, dans le but de les encourager à acquérir de la maturité dans leur compréhension et dans leur expérience de la grâce de Dieu en Christ. Amen. Donc nous devons comprendre qu'est-ce que la grâce de Dieu et nous devons l'expérimenter. Amen. Dans tous les domaines. Et produire des fruits, on a vu tout à l'heure quand le Seigneur Jésus a dit que beaucoup de gens diront qu'ils ont fait des choses en son nom et qu'ils ne les connaissent pas. D'accord? Donc on voit que quelque part, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. L'effort pour produire du fruit n'est pas une œuvre charnelle. D'accord? Ce n'est pas une bonne action qu'on fait humainement. Amen. C'est le fruit de la grâce de Dieu. Et la grâce qu'on a reçue de Dieu, si on comprend ce que c'est l'Esprit de Dieu qu'on a en nous. Amen. C'est une grâce. D'accord? On n'a rien fait pour mériter, mais c'est en nous. Et cet esprit-là, c'est comme une graine de vigne, en fait. Quand on plante une vigne, tout ce qu'elle sait faire, c'est produire du raisin. Amen. Et la vie de Dieu qu'on a reçue, tout ce qu'elle sait faire, c'est produire la nature de Christ. Amen. C'est la seule chose qu'elle sait faire, c'est produire la nature de Christ. À la seule condition, c'est qu'on débroussaille tout ce qui est dans nos vies qui veut étouffer cette graine, pour ne pas qu'elle produise la vie de Christ. Amen. L'effort dont il est question, c'est débroussailler. Amen. L'effort dont il est question, c'est couper les choses qui doivent laisser place pour que seule la vie de Christ puisse occuper le bois que nous sommes. Amen. Et donc on va lire, c'est dans 2 Pierre 1, du verset 5 à 9. Le temps passe vite. 2 Pierre 1, 5 à 9. Pour cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts. L'apôtre dit, faites tous vos efforts pour développer votre foi. Tous vos efforts pour associer à votre foi. C'est moi qui ai rajouté tous vos efforts pour comprendre encore qu'en fait c'est une répétition. Les efforts accompagnent toutes ces choses qui sont citées. Faites tous vos efforts pour associer à votre foi l'énergie morale, il s'agit de la piété, et faire produire à votre foi une vie active et vertueuse. Vous remarquerez, j'ai fait exprès de prendre cette version, elle est différente de celle que vous avez, parce qu'elle détaille plus les choses. Amen. On a des versions qui sont en français très concises et qui n'étayent pas parfois l'ampleur des réalités spirituelles qu'il y a derrière. Et cette version, je l'aime bien parce qu'elle détaille les choses. Donc, que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles. À la connaissance spirituelle, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À cette attente patiente du secours divin, l'attachement à Dieu et une confiance toujours plus grande en lui. Enfin, à cet attachement à Dieu, joignez et développez sans cesse jusqu'à en être rempli. Elles ne vous laisseront pas inactifs et sans fruit. Au contraire, vous ferez des progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, celui à qui ces choses manquent, à qui elles font défaut, est spirituellement aveugle. Donc, celui à qui toutes ces choses qu'on vient de voir manquent est spirituellement aveugle. C'est un homme à courte vue, un homme qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, un homme qui ne discerne que ses intérêts immédiats et terrestres. C'est un homme qui a mis en oubli la purification de ses péchés d'autrefois. Amen. Donc, selon ce passage que nous venons de lire, nous pouvons retenir que les traits de caractère indispensables à notre croissance spirituelle sont les suivants. Faire tous nos efforts possibles pour développer notre foi. Amen. La foi. Associer à notre foi la discipline morale. La volonté spirituelle de faire les choses bonnes que l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu dit qu'elles sont bonnes. Accompagner la discipline morale avec la connaissance spirituelle. Ajouter à la connaissance spirituelle la maîtrise de soi. Ajouter à la maîtrise de soi l'endurance et la ténacité dans l'épreuve, c'est-à-dire la patience. C'est-à-dire savoir attendre patiemment le secours de Dieu dans nos épreuves. Ajouter à l'endurance dans l'épreuve l'attachement à Dieu et une confiance toujours plus grande en lui, Dieu. Et joindre à notre attachement à Dieu l'affection fraternelle qui nous conduit à l'amour. Amen. C'est tout un programme. Et on voit que toutes ces choses se cumulent. D'accord? C'est-à-dire qu'elles se passent simultanément, en fait. C'est continuel. Continuel. Pour être productif en tant qu'enfant de Dieu et disciple de Christ, nous devons poursuivre tous les jours deux objectifs. Bon, c'est les deux objectifs que j'ai vus dans ce passage. Posséder ces qualités spirituelles. D'abord, il faut les posséder et ensuite les cultiver sans cesse jusqu'à en être rempli. Amen. C'est une discipline continuelle. La vigne ne produit que du raisin, n'est-ce pas? Amen. L'homme spirituel n'est censé produire que des fruits spirituels. Ils sont là. C'est ce qui est censé être dans notre nature, en fait. Amen. Je lisais une méditation la semaine dernière qui disait que la vie en Christ, elle n'est pas facile. D'accord? Ce n'est pas une vie facile, mais une chose est sûre, c'est une vie très simple. C'est une vie très simple. Les choses qui sont à vivre sont très simples. Elles sont très claires. Il n'y en a pas énormément. Mais ça demande une discipline, un effort spirituel. Il y a un prix à payer, en fait. Amen. Et c'est ça, ce prix-là. Posséder les qualités spirituelles. Quand vous voyez tout à l'heure, examiner les fruits. Travailler sans cesse à veiller. Veiller sans cesse à ce que ces fruits spirituels soient présents. Et les cultiver sans cesse. Devenir des maîtres dans la culture de ces fruits-là. Amen. Et l'apôtre Paul nous fait une promesse au sujet de ces deux objectifs. Il nous dit qu'il est impossible d'être inactif et sans fruit lorsque nous possédons ces qualités spirituelles et lorsque nous les cultivons sans cesse. Amen. La présence de ces fruits dans notre vie ne peut pas nous laisser inactifs. Quand on a ces fruits spirituels dans nos vies, on est constamment en action dans le royaume de Dieu. Amen. En train de porter les fruits du royaume. Parce que ces éléments ne peuvent pas nous laisser inactifs. Amen. Si tu es inactif, examine. Mon frère, ma soeur, examine. C'est qu'il y a des choses qui manquent, qui font que tu ne peux pas passer à l'action, tu ne peux pas produire du fruit. Amen. Il y a des choses qui doivent être débroussaillées, coupées, il y a quelque chose qui coupe le flux de la vie de Dieu qui produit ces fruits-là. Et j'en ai tiré une formule. Donc la foi plus la discipline morale égale vie active et vertueuse. D'accord? La foi plus le fait d'agir dans cette discipline te mène à une vie active et vertueuse qui produit du fruit. D'accord? Et combien de temps il me reste? Une dizaine de minutes? Il est demi? D'accord. Ok. 20 minutes? Ok, très bien. Et ensuite, toujours, derrière la nécessité, je prends mon temps parce que c'est important, derrière l'importance que l'apôtre a souligné, l'importance de porter du fruit, il y a un élément très, très important qu'il faut qu'on retienne, la rapidité d'obéissance au Saint-Esprit. Amen. La rapidité d'obéissance au Saint-Esprit. Être rapide à obéir au Saint-Esprit. Posséder certains traits de caractère spirituel ne suffit pas pour devenir productif pour le royaume des cieux. Nous devons acquérir une rapidité d'obéissance à l'Esprit-Saint. Si nous ne voulons pas obéir rapidement à l'Esprit, cela signifie tout simplement que nous ne voulons pas obéir. Traîner les pieds à obéir, ça veut dire qu'on ne veut pas obéir, n'est-ce pas? Cela signifie que nous ne pensons, quelque part, ne pas obéir rapidement, ça veut dire que nous pensons que, quelque part, peut-être Dieu, la volonté de Dieu va changer demain. Un peu ça. Je traîne parce que peut-être que, en chemin, les choses vont changer. Les choses vont pas être selon ce que Dieu m'a ordonné de faire. Or, la pensée de Dieu ne change pas. Amen. Dieu ne change pas. Dieu demeure le même. Amen. S'il nous demande de faire une chose et qu'on la fait et qu'on traîne à la faire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, ce scénario peut se passer. Dieu peut demander à une autre personne de le faire. Amen. Mais on a vu dans le cas de Jonas que ça n'a pas été le cas. Amen. Il y a des cas où la personne a échoué et puis Dieu écarte la personne. Dieu disqualifie la personne. Et il appelle un autre. Amen. On a vu le cas de Saül, et puis Dieu a appelé David. Saül a été disqualifié. Mais dans le cas de Jonas, Jonas est passé par des temps difficiles. On l'a vu, n'est-ce pas? Dans le cas du peuple d'Israël dans le désert, on l'a vu 40 ans. D'accord? C'est ça. Donc en gros, quand on est lent à obéir, on perd beaucoup de temps. Amen. On perd beaucoup de temps dans des déserts, dans des situations que Dieu n'aurait pas voulu pour nous. Amen. Parce que ces déserts-là sont l'apprentissage, sont le temps de brisement pour pouvoir aller vers l'obéissance. Amen. Et on voit qu'il se passe une chose aussi dans la vigne. Lorsque les personnes cultivent la vigne, ils attachent le pied de vigne. Parfois, on le tord, on le redresse, on l'oblige à suivre une trajectoire pour pouvoir croître et porter du fruit. Amen. Et Dieu fait pareil avec nous. Dieu va pas, le vigneron va pas se plier. C'est la vigne qui doit se plier. Amen. Et c'est ce concept-là, c'est cette logique-là que Dieu adopte. Amen. Plus vite on est rapide à nous accorder avec notre Dieu, mieux c'est pour porter le fruit. Amen. Alléluia. Donc, lorsque Dieu nous donne un ordre, ne pensons pas et ne réfléchissons pas, mais obéissons-lui immédiatement. Et je crois que c'est pour ça que Dieu nous demande d'être comme des enfants. Amen. Bon, je dis ça avec humour. Je remarque que ceux qui ont des enfants ont vu que les enfants sont parfois difficiles et lents à obéir. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on change? Dieu nous demande de tenir ferme, non? Pour éduquer l'enfant, n'est-ce pas? C'est la même chose. Et ça prend du temps. Ça prend du temps avant qu'un enfant acquiert l'obéissance. Et Dieu est pareil avec nous. Et l'obéissance lente, la vérité, c'est que l'obéissance lente conduit à la désobéissance. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est lent à obéir, quelque part, on laisse le temps à Satan de réagir avant nous et de nous mener à la désobéissance. N'est-ce pas? Plus tu es lent à obéir, plus tu as la tentation de ne pas obéir. N'est-ce pas? Tu as des options, des plans B, des plans C qui viennent, n'est-ce pas? Il y a des distractions qui viennent. Donc soyons rapides à obéir. La deuxième chose, la leçon que nous pouvons retenir de cette parabole de la vigne, c'est l'importance de grandir dans notre foi. Amen. Être productif pour le royaume de Dieu, c'est grandir dans notre foi. Amen. On ne doit jamais se dire qu'on a déjà assez de foi. On doit grandir dans notre foi. La Bible en Hébreu 11, verset 1 nous dit, et nous donne une définition parfaite de la foi. Et elle nous dit ceci. Hébreu 11, verset 1. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà par avance, de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Amen. Je suis certain que le frère Kevin, quand il louait tout à l'heure, il reprenait les paroles de ce chant. Il était certain. Amen. Il était rempli d'autant de hardiesse parce que dans son esprit, il y avait cette certitude que la réalité spirituelle était celle dans sa vie. Amen. C'est la foi. C'est manifestation de la foi. D'accord? Et notre foi est l'arme la plus puissante que nous avons contre notre adversaire, le diable. Amen. Et vous voyez, l'obéissance est liée à la foi. On a vu tout à l'heure l'obéissance rapide. C'est la foi aussi. La foi, c'est une confiance en Dieu. Si on a confiance en Dieu, on obéit systématiquement à ce qu'il dit. N'est-ce pas? On lui fait confiance. Normalement, un enfant doit faire confiance à son papa, à sa maman, et obéir rapidement. D'accord? Donc, on est dans un processus d'apprendre à nos enfants à nous faire confiance. Et 1 Pierre 5, versets 8 à 9 nous dit, « Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Opposez-vous à lui avec une foi inébranlable. » Amen. Une foi inébranlable. D'accord? Une foi ferme. Éphésiens 6, 16 nous dit, en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Nous pouvons accomplir toutes les œuvres possibles et imaginables, mais si nous n'avons pas la foi, nous serons improductifs pour le royaume des cieux. Amen. On a vu tout à l'heure Jésus dire à des personnes qui ont fait plein de choses pour lui qu'il ne les connaissait pas. Parce que dans ce texte que Jésus est en train de dire, ces personnes ont fait toutes ces choses sans être basées sur la foi. Amen. Ils ont fait toutes ces choses sans être dans l'obéissance au Seigneur, au Maître. Amen. Parfois, nous pouvons travailler pour Dieu, mais ne pas être en train de travailler là où Dieu nous demande de travailler. C'est très important. On peut être en train de travailler pour Dieu, mais ne pas être en train de travailler là où Dieu veut qu'on travaille pour lui. Et ça nous disqualifie, et ça disqualifie le fruit qu'on produit aux yeux de Dieu. Amen. Parce que c'est lui le vigneron. C'est lui qui décide. Amen. C'est lui qui décide quand c'est la moisson. C'est lui qui décide ce qui est censé rester sur la vigne parce que ça produit ce qui est censé dégager si ça n'a pas produit. Amen. Or, Hébreu 11, 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Autrement dit, quand on a la foi, on ne cherche pas à avoir la garantie de la rémunération, du fruit, du bénéfice de quelque chose. Amen. On sème par la foi parce que Dieu a dit de semer. Amen. C'est lui qui est le garant de ce qui va être produit. Amen. C'est lui qui sait quel est le fruit qu'il cherche à récolter pour le royaume. Amen. La foi. Pour lui être agréable. En troisième lieu, la troisième leçon que cette parabole nous enseigne, c'est que la piété, c'est la piété. Amen. L'importance de la piété. Et la piété représente l'excellence morale. Amen. Je sais que c'est un thème qui n'est pas très populaire dans le monde dans lequel on vit. L'excellence morale. Et pourtant, Bon, la météo, l'actualité du royaume des cieux dans la Bible, quand on lit, voici ce qui est dit, hein, c'est dans Osée 6:6. Ceux qui étaient avec nous hier l'ont entendu. J'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. C'est Dieu qui parle, hein. J'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Donc, le Seigneur exige de nous une attitude de cœur. Amen. Abraham avait cette attitude de cœur-là quand il a offert Isaac. Il avait l'attitude de cœur. Et Dieu attend de nous un don de notre être tout entier. Et Dieu n'attend pas de nous une religion dont la forme extérieure accomplit machinalement des sacrifices. Amen. Vous savez, il est facile de prendre l'habitude d'entrer dans la présence de Dieu et de répéter chaque fois les mêmes sacrifices de louange. Les mêmes choses, par habitude. Parce que ça devient comme un acte religieux. C'est une habitude. Et Dieu, il est vraiment dans ce qui se passe sur l'autel de nos cœurs. Quelle est l'attitude de nos cœurs? Quelle est la pensée qui sont dans nos cœurs? Amen. Quelles sont nos préoccupations qui sont dans nos cœurs? Amen. Lorsque je chante cette louange, est-ce que vraiment dans mon cœur, Dieu est ce que je suis en train de dire dans le chant? Ou bien je suis en train de penser à mon problème de facture que je... ou aux autres problèmes? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est vraiment Dieu dans mon cœur? Est-ce que dans mon attitude, dans mon cœur, Dieu est vraiment Dieu? Est-ce que Dieu est sur le trône de mon cœur? Est-ce que c'est lui qui règne? Est-ce que c'est lui qui domine au-dessus de toutes choses? Et la piété, quand on continue d'étudier, regardons ce que Dieu dit. L'apôtre Paul dit à Timothée, son jeune disciple, il dit à Timothée, repousse dans 1 Timothée 4, versets 7 à 8. 1 Timothée 4, versets 7 à 8, il dit, repousse les contes profanes et absurdes. Et Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. L'apôtre Paul ne dit pas que l'exercice physique est inutile. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que faire du sport et l'exercice physique, prendre soin du corps est inutile. C'est pas vrai. C'est pas ce qui est dit ici. Il dit l'exercice corporel est utile à peu de choses. Amen. Donc dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le plus important. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Et si on veut donner une définition à la piété, la piété, ça représente l'attachement à Dieu. D'accord? La piété, c'est l'attachement à Dieu, l'attachement aux choses de Dieu. La poursuite des choses de Dieu. Et dans 1 Timothée 3, verset 16, Paul dit à Timothée, « Et sans contredit, sans discussion, sans débat, le mystère de la piété est grand. » Celui qui a été, et quel est le mystère de la piété? C'est celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans sa gloire. Donc le mystère de la piété, c'est Jésus-Christ. Amen. Le secret de l'attachement à Dieu, le mystère de la piété, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus est l'incarnation, la représentation même de la relation qu'on doit avoir avec Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. C'est lui notre modèle par excellence. Oui, et en 1 Timothée 3, 16, l'apôtre Paul dit toujours, oui à Timothée, oui, vraiment, c'est une grande et profonde vérité que la piété, notre foi chrétienne, dévoile. Bon, attention, je suis en train de relire la même chose dans une autre version, d'accord? Je vous ai lu avant la version Louis II. Et là, je vous lis la version Parole Vivante. Je vous la lis parce qu'elle est plus détaillée. Il dit, oui, vraiment, c'est une grande et profonde vérité que la piété, notre foi chrétienne, dévoile et que nous reconnaissons ensemble au sujet du Christ. Il s'est révélé dans un corps humain et déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu par les anges et fut proclamé parmi les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier. Il fut élevé au séjour de gloire. Amen. Et aujourd'hui, la date est calé sur la naissance de Jésus-Christ dans le monde entier. Amen. Le calendrier est marqué. Personne ne peut effacer ça. Parce que le mystère est grand. La parole de Dieu, la saine doctrine et la piété sont inséparables. L'apôtre Paul nous dit clairement, la saine doctrine et l'attachement à Dieu sont inséparables. Amen. Tu ne peux pas être attaché à Dieu si tu n'es pas attaché à la saine doctrine. Amen. Tu peux avoir un ange qui te parle, soi-disant tout, si ce n'est pas attaché à la saine doctrine. Ce n'est pas l'attachement à Dieu, ce n'est pas la piété. D'accord? 1 Timothée 6, 3 à 6 nous dit ceci. Et Paul dit clairement à Timothée, ce qu'il dit est quand même très dur, mais ça doit être retenu par nous parce que c'est très clair. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Amen. Et là, l'apôtre Paul lance un avertissement à Timothée. Ça veut dire déjà, il y a, au commencement de l'Église, il y avait des personnes qui avaient commencé à associer la foi avec le gain de l'argent dans les enseignements. C'est de ça dont l'apôtre Paul parle. Et il met en garde son disciple en lui disant que la piété, avec la piété vient un contentement. D'accord? C'est-à-dire que on a, en Dieu, on est rassasié, on ne manque de rien. Amen. On n'aspire pas à la richesse comme le monde aspire à la richesse. Amen. On n'est pas attaché à l'amour de l'argent comme le monde est attaché à l'amour de l'argent. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit lui-même, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Le fait d'être attaché au royaume de Dieu et à sa justice, on est préservé de tordre les Écritures pour chercher l'argent, la gloire du monde. Amen. La saine doctrine est notre protection de cette dérive-là. La saine doctrine. Est-ce que notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ et en ses saines paroles nous suffisent-elles dans notre vie ici-bas? C'est une question qu'on peut se poser. Parce que la parole de Dieu nous invite à nous examiner. Est-ce que, avec ce qu'on a de Jésus, ce qu'on a de sa parole, est-ce que ça nous suffit? Ou est-ce qu'en nous, on a encore une démangeaison de vouloir poursuivre des choses que Dieu nous demande de laisser? Amen. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne nous demande pas de travailler. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne demande pas à des personnes d'entreprendre. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Amen. J'ai dit tout à l'heure que lorsque Dieu nous demande de faire une chose et qu'on veut être en train de faire autre chose, on est en train de désobéir à Dieu. Amen. Il y a des gens que Dieu a appelés à être intendants sur des biens plus que d'autres. D'accord? Dieu a donné le don de libéralité à certaines personnes. Et pour ces personnes-là, ce n'est pas une occasion de chute, de gérer. Amen. On verra que ces personnes-là sont très humbles, elles ont tous les fruits de l'esprit dans la gestion de ces richesses. Mais il y en a d'autres pour qui c'est une occasion de chute. Amen. Il y en a d'autres pour qui c'est une occasion de chute. D'accord? On voit l'exemple de Judas qui gérait la bourse. Judas avait dans son cœur quand même l'amour de l'argent. Ça a été une porte à l'ennemi et il a abandonné la foi. D'accord? Je vais arrêter dans 2 minutes. Donc, la question ici, c'est notre piété est-elle semblable à celle des premiers disciples de Christ et de l'apôtre Paul qui était capable de dire dans les paroles suivantes, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Rappelons-nous que les apôtres ont été ceux qui ont tout laissé pour suivre Jésus. Amen. Quand Jésus les a suivis, il les a appelés où ils étaient. Ils ont tout laissé. C'était en train même de travailler avec leur père. Ils ont tout laissé. Ils l'ont suivi. Amen. Ça veut dire quelque chose. Je vais peut-être m'arrêter un peu là-dessus parce que c'est important. C'est que quelque part, quand le Seigneur Jésus nous appelle, si on le suit authentiquement, il doit avoir une mort à nous-mêmes en fait. Une mort, il y a une ligne qui se trace. Les choses anciennes sont vraiment passées. Amen. Les choses anciennes sont vraiment passées. Et quand on voit par exemple, si on revient encore au sacrifice que Dieu a demandé à Abraham de faire en présentant Isaac, c'était un examen pour voir si vraiment, c'est le test quoi, pour voir vraiment où en était vraiment la confiance d'Abraham et l'attachement d'Abraham à Dieu par rapport à ses rêves qu'il avait avant avec sa femme. Isaac représentait ça. Amen. Et Abraham était prêt à laisser ça pour Dieu. Amen. À le sacrifier sur l'autel. Et donc, c'était une confirmation de où était l'attachement d'Abraham à Dieu. Amen. Et la piété, c'est l'attachement à Dieu. Amen. La piété, c'est l'attachement à Dieu, si on revient à ça. Donc, on voit que l'attachement à Dieu ne doit pas être en compétition. Rien ne doit être en compétition avec notre attachement à Dieu. Rien ne doit être en compétition avec notre attachement à Dieu. Amen. Et il se peut que Dieu nous emmène des situations pour nous tester, pour voir s'il y a des choses qui sont en compétition avec lui dans nos cœurs. Amen. On prend un autre exemple. 1 Timothée 1, 6, 7 à 8. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Nous n'avons rien à porter dans ce monde et il est bien évident que nous n'en emporterons rien le jour où nous le quitterons. Tant que nous avons nourriture et vêtements, estimons-nous contents. » Amen. Et 1 Timothée 6, 6 nous dit, « Le véritable attachement à Dieu est en effet une grande source de richesse, s'il va de pair avec le contentement de l'esprit. La foi vécue est un trésor qui rapporte des intérêts élevés, mais ils sont réservés à ceux qui trouvent leurs ressources en eux-mêmes et qui ont appris à se satisfaire de ce qu'ils ont. » Amen. Donc, autrement dit, dans l'esprit de Dieu, l'esprit que nous avons reçu, il y a une ressource qui nous comble. Amen. Quand on parle de la plénitude de l'esprit, quand on a la plénitude de l'esprit, il y a plein d'appétits, des choses qu'on avait avant dans le monde qu'on n'a plus en fait. Amen. C'est un fruit de l'esprit. Amen. C'est un fruit de l'esprit. Et l'apôtre Paul nous met en garde contre les fausses richesses. Je vais m'arrêter là. D'accord? Il reste encore facilement une autre moitié. Mais on le verra une autre fois. Tu es d'accord, pasteur? Je vais m'arrêter là. Mais donc, on peut retenir vraiment que Dieu souhaite qu'on soit productif, qu'on porte du fruit. Amen. Et toute notre attention doit être à nous examiner nous-mêmes au travers des Écritures pour mesurer quel est le fruit qu'on porte. Vous savez, tout ce que j'ai partagé avec vous, en le faisant, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de vous préciser à chacun que c'est à lire pour l'appliquer à nous-mêmes. Amen. C'est à lire pour l'appliquer à nous-mêmes. C'est pas pour juger, examiner quelqu'un d'autre. C'est vraiment à lire pour l'appliquer à nous-mêmes. Amen. Parce que le Seigneur veut vraiment qu'on s'attache à lui et qu'on porte un fruit selon ce qu'il a mis en nous, en Jésus-Christ. Amen. Et mon frère, ma soeur, sache une chose, tu as tout reçu. Comme le diacre, comme le frère Kevin disait tout à l'heure, tu as tout reçu. On a tout reçu en Christ. Amen. La plénitude est en nous. On a une graine qui est en nous. Amen. Cette graine veut grandir et porter un fruit excellent. Que le Seigneur nous aide à comprendre dans les Écritures qu'est-ce qu'il veut qu'on mette à la croix. Qu'est-ce qu'il veut qu'on mette de côté. Quelle est la repentance qu'il veut qu'on ait dans notre vie pour nous détourner et le suivre vraiment. Seigneur, je veux te rendre grâce vraiment pour ta parole qui est excellente, Seigneur. Parce que tu es excellent, fidèle et bon. Ton disciple a eu raison lorsqu'il a dit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie. Nous avons cru, Seigneur, et nous savons que tu es le Christ, le Saint de Dieu, le Oint de Dieu, Seigneur. Et Seigneur, vraiment, tu as été à part, Seigneur, dans toutes les générations passées, toutes les générations futures, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la grâce que nous avons eue d'entendre ton appel, Seigneur. Merci, parce que, Seigneur, c'est toi qui nous as choisis. Tu nous as dit dans ta parole, « Je vous ai choisis ». Merci, Seigneur, pour le privilège et la grâce que nous avons d'être choisis. Seigneur, nous voulons vraiment déposer nos cœurs devant toi, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Te présenter nos cœurs devant toi. Seigneur, tu es le souverain potier. Seigneur, donne-nous la forme qui te plaît, Seigneur. Tu as dit que, Seigneur, tu es le vigneron, Seigneur. Tu as dit que le Père est le vigneron et que toi, tu es la vigne, Seigneur. Et nous sommes les sarments, Seigneur. Seigneur, aimons de nous, Seigneur. Ôte de nos vies les choses qui t'empêchent, Seigneur, de te manifester pleinement, de te glorifier, Seigneur. Seigneur, laisse ton esprit, laisse ta parole venir confondre dans nos vies toutes les choses qui ne sont pas de l'esprit de Dieu, toutes les choses qui ne sont pas du royaume de Dieu. Seigneur, viens mettre à la lumière, Seigneur, les choses cachées dans nos vies. Seigneur, mets dans nos cœurs, Seigneur, par ton Esprit Saint, Seigneur, le rejet, la haine de ces choses, Seigneur, qui ne sont pas de toi. Et que tu sois glorifié dans nos vies, que tu sois glorifié dans nos familles, Seigneur, que tu sois glorifié dans nos activités, Seigneur, dans tous les domaines de nos vies, la vie de nos enfants, Seigneur. Seigneur, que ton fruit soit apparent en toutes choses, Seigneur, et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus, Seigneur. Je fais cette prière. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Scelle ces paroles dans nos cœurs, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Que ces paroles, Seigneur, continuent vraiment de bouger dans nos cœurs, Seigneur. Qu'elles continuent de nous parler par ton Esprit Saint. Qu'elles portent un fruit, Seigneur. Et continue de nous enseigner, Seigneur. Nous voulons nous attacher à toi. Merci pour ta fidélité, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.